ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville?
Est-ce qu'on sera solidaire entre nous?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Notre ville, regard vers le futur. Aujourd'hui, nous allons continuer à imaginer Bourg-en-Bresse en 2050, mais cette fois-ci, plus particulièrement en nous intéressant à l'eau. Alors enfant déjà, moi on me disait de ne pas laisser couler l'eau pour rien. Aujourd'hui, on récupère un maximum d'eau un peu partout. On a des récupérateurs d'eau, on met des seaux sous la douche. Et moi j'ai même une bouteille proche de mon évier, parce qu'en fait ça met une plombe à chauffer mon eau, donc du coup je récupère l'eau qui est encore tiède pour arroser mes plantes. Donc l'eau est précieuse, c'est vrai, mais elle est aussi belle. J'adore aller me balader à Bouvant après le travail, me poser tranquillement dans l'herbe, mais aussi partir en balade et découvrir des rivières qui serpentent tranquillement dans les champs autour de Bourg-en-Bresse. Et c'est justement de rivières qu'on va parler aujourd'hui avec notre invité Alexandre Lafleur, donc directeur du syndicat Ressous et Affluents. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous dirigez un syndicat de rivières. Bon, déjà la première question, qu'est-ce que c'est ?
Un syndicat de rivière.
Un syndicat de rivière.
Un syndicat de rivière, c'est une collectivité, donc ça fait, c'est un peu similaire à une mairie ou une communauté de communes. On travaille donc pour l'intérêt général et pour une compétence. La compétence, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Ok. Donc,
on mène des travaux pour ces compétences-là.
Voilà. Moi, j'ai noté du coup que vous restaurez les rivières, donc vous les protégez. Et du coup, vous gérez aussi des risques et par exemple, vous avez parlé d'inondations. Donc du coup, toute cette chose-là, vous les gérez.
Oui. Alors du coup, dans nos travaux, on a toujours cette entrée biodiversité, cadre de vie. On répond avant tout à ça, entre guillemets. Et puis, on intègre dans nos travaux la prévention des inondations. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus dans la prévention. On anticipe le dégât ou l'inondation. La crue fait partie d'une rivière, donc l'objectif, ce n'est pas d'enlever complètement le risque, c'est plutôt de mieux le gérer. Voilà.
Ok, moins de répercussions finalement.
Moins de répercussions sur la société et donc moins de coûts pour la société aussi.
Ok. Et du coup, ces rivières, déjà je ne me rends pas compte puisqu'on parle toujours de la Ressous, c'est beaucoup de rivières qui se trouvent autour de nous ou pas ?
Oui, alors, déjà, la Ressous par elle-même fait 75 km de sa source à sa confluence. Et puis, elle est drainée par plusieurs affluents. 13 affluents arrivent dans son cours d'eau, 13 affluents principaux. Mais globalement, le syndicat de rivière doit gérer entre 400 et 500 km de cours d'eau. Et ensuite, la Bresse étant une grande zone humide, on a finalement des écoulements qui sont des fossés ou des cours d'eau. Mais ça représente à peu près 1500 km de cours d'eau ou d'écoulement, on va dire, globalement, sur le territoire qu'on gère, qui va approximativement de Journans jusqu'à Pont-de-Vaux et qui fait une grande banane en passant par Bourg-en-Bresse, Montrevel-en-Bresse, Saint-Juin-sur-Ressous et Pont-de-Vaux.
C'est beaucoup ou pas, ça, ce territoire humide? On est plutôt en territoire humide ici, en Bresse, ou dans le reste de la France, c'est tous à peu près la même chose?
Ah non, on a quand même ce paysage singulier qui est la Bresse, un bocage fait de haies, de mares, donc d'un sol aussi qui est très hydromorphe, qui adore l'eau, on va dire comme ça. on a vraiment ce paysage singulier. À Bourg-en-Bresse, on peut en voir un complètement différent. C'est le Revermont, par exemple, qui est un paysage très sec, cette fois-ci, du karst, du calcaire, un peu plus montagneux. Donc la Ressous prend sa source au pied de cette montagne, cette petite montagne, oui. Cette colline, le Revermont, pour ensuite serpenter sur son premier tiers jusqu'à Bourg-en-Bresse. Et ensuite, elle part vraiment dans la pleine Bresse quand on passe Montrevel, Saint-Julien et toutes les communes que j'ai citées auparavant.
D'accord. Et du coup, là, c'est un peu le panel aujourd'hui. Demain, on va avoir beaucoup de changements. Donc, on vit un dérèglement climatique qui va nous imposer plus d'épisodes caniculaires, plus de crues fortes aussi, avec plus de pluie. Est-ce que tout ce dérèglement climatique, il est pris en compte et on cherche à adapter, du coup, à préserver ces cours d'eau dès aujourd'hui ou...
Oui. Ouais. Alors oui, dans tous nos travaux qu'on conduit, effectivement, c'est une anticipation. Vous avez dit tout à l'heure, préserver les cours d'eau, oui, mais avant tout, adapter nos cours d'eau et notre société à ces grands changements qui arrivent. Ces grands changements, c'est quoi ? C'est des extrêmes qui sont beaucoup plus marqués, la chaleur, mais aussi la précipitation. Globalement, les perspectives, c'est plus 4 degrés en 2050 en température moyenne et moins 30% d'eau en été dans nos cours d'eau. Ça veut dire que dans la structure de nos travaux, on doit anticiper ces deux grands changements. Comment on fait ? C'est à l'été, on va remettre de la terre qu'on appelle des banquettes, c'est-à-dire qu'on pince un petit peu la rivière pour lui permettre d'avoir plus de hauteur d'eau. Comme quand on appuie sur une bouteille en plastique qui est remplie, l'eau elle monte dans la bouteille. Ben, finalement, c'est le même principe sur nos cours d'eau. Ça, c'est pour adapter la rivière à l'été, à moins 30%, et donner en fait plus de hauteur d'eau aux poissons pour vivre. Bon, les poissons sont ce qu'on représente le plus dans une rivière, mais il y a plein d'autres organismes qui vivent dans une rivière. Et puis, en parallèle, en hiver, on sait qu'on on aura probablement un peu plus de pluie qu'actuellement et qui arrivera en grosse quantité d'un seul coup. Ce qu'on appelle les cévenoles, les orages cévenoles, qui avant se passaient plutôt aux alentours de Nîmes, voilà, ont tendance à remonter. Et donc, il nous faut quand même un grand gabarit pour faire passer cette eau. Tous nos travaux sont finalement constitués comme ça. On essaye de gagner de la place sur les bords de cours d'eau pour faire passer cette masse d'eau en crue. Et puis, en été, on essaye de mettre de la terre à l'intérieur de ce grand volume pour pincer notre eau. Voilà.
Ok, pour adapter du coup le cours d'eau.
Le cours d'eau.
Le cours d'eau, du coup, il est utile du coup pour la biodiversité, les poissons, les animaux. Est-ce qu'il a d'autres utilités, notamment pour nous finalement direct, à part se balader et que ça soit super joli. Voilà.
Ouais, alors ça, c'est déjà un service rendu par les rivières. On parle de service rendu, c'est service rendu à la société, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais effectivement, la rivière, c'est un marqueur du rapport de la société à la nature ou à l'eau. Donc, oui, le service rendu de la rivière, c'est la ressource en eau, comment on va boire dans le futur. La biodiversité qui apporte, alors, hormis la préservation extrême, mais la biodiversité, c'est aussi des pollinisateurs, c'est aussi un organisme qui fait qu'il y a une chaîne trophique, une chaîne alimentaire qui se met en place. Et puis ensuite, on a aussi cette identité territoriale. Je parlais tout à l'heure de la braise, d'un bocage. Le bocage, finalement, c'est un système de haies et de fossés, et c'est un marqueur de l'identité bressane. C'est un paysage qui a été façonné depuis plusieurs centaines d'années par notamment l'agriculture et qui cette agriculture s'est adaptée à une zone humide. Voilà. Donc on parle de rivière, on parle plus globalement nous de milieu aquatique où on indifférencie la rivière des zones humides qui sont autour puisque la rivière elle ne peut pas vivre toute seule, elle vit dans son ensemble. Voilà. Voilà pour les services rendus j'en ai oublié un majeur dans la ville, c'est pour la ville du futur notamment, c'est la régulation climatique puisque la rivière elle apporte un vecteur de fraîcheur dans les temps chauds, donc en été, puisque la présence d'eau, la présence de végétation agit comme un climatiseur pour les villes.
D'accord. Donc, du coup, dans la ville du futur, alors, pour qu'on reste ou pas, est-ce que vous pensez que, du coup, on va avoir beaucoup plus d'eau apparente dans la ville ?
Ben, en tout cas, nous, notre objectif, c'est bien celui-là. C'est pas forcément de la rendre apparente quand elle est en crue. Ouais. Bien qu'il faut qu'on se réhabitue à cette présence. En fait, on a vécu, grâce aux progrès techniques, on a caché un petit peu sous un voile la vulnérabilité de la société face au changement climatique, face à la... aux catastrophes. En fait, on n'en a pas trop vécu. Et là, on prend une grosse vague de catastrophes. Alors déjà, beaucoup plus visible, car plus médiatisée, mais aussi parce qu'on a cumulé ce voile-là, notre fragilité, en tout cas, a masqué notre fragilité. Et aujourd'hui, on a atteint les limites de ce système très court-termiste où on a voulu cacher les cours d'eau, notamment dans les sols. Dès que l'eau tombait, on la mettait dans des tuyaux, on les emmenait dans le sol de la ville. Elle disparaissait complètement et la rivière n'était que finalement l'exutoire, le débouché de cette eau. Tout ça cumulé faisait qu'en crue, on remontait très vite les rivières et qu'on était très vulnérables. Mais vu qu'on les canalisait, finalement, on regardait ce qui se passait chez nous. Et dès qu'il y avait une campagne, boum, ça débordait. Donc ça donnait des grosses inondations très violentes. Aujourd'hui, on essaye plutôt de gérer l'eau au plus proche de nous, en prenant en considération son impact sur de sa source à sa confluence. C'est ce qu'on appelle la solidarité amont-aval. sur une rivière. Du coup, la ville du futur, pour moi, elle sera nécessairement plus végétale, nécessairement plus, l'eau sera nécessairement plus présente dans la ville, notamment sur, par exemple, pourquoi l'eau de pluie qui tombe sur les toits, on l'amène dans un chenot et on la fait partir dans un tuyau qui arrive dans une rivière. Pourquoi ne pas profiter de cette eau qui tombe pour irriguer des espaces verts dans la ville ? Et donc faire des petits îlots de végétation et donc des petits îlots de fraîcheur plutôt que de générer des îlots de chaleur dans la ville. Voilà. Donc ça peut être une solution. Je suis pas Madame Irma pour le coup, c'est impossible de savoir l'évolution, mais en tout cas, à mon sens, ce serait logique d'essayer de travailler la ville dans cet objectif-là.
Voilà, de l'eau beaucoup plus accessible et utilisée finalement directement, donc récupérateur d'eau de pluie, parce que du coup, si on récupère l'eau de pluie, elle va pas dans la rivière qui débordera plus loin.
Donc oui, c'est bien. C'est plutôt pas mal, oui. En tout cas, en ville.
Voilà. Ok. Et est-ce que vous pensez, alors là, on parle du trop plein d'eau. Est-ce qu'on va manquer d'eau? Parce qu'on parlait, vous parliez de 30% de réduction dans les cours d'eau. Alors même si on arrive à le canaliser pour que on ait quand même un beau sillage, est-ce que du coup, le manque d'eau va se faire sentir à certains moments?
C'est difficile pour nous de le prévoir. Nous, en tout cas sur la Bresse, encore une fois, on a la chance d'avoir une grande zone humide qui n'est pas en stress hydrique aujourd'hui. À l'échelle, nous, on regarde ça à l'échelle du bassin versant du Rhône, du coup, donc très grand bassin versant. Et dans ce bassin versant, vous avez forcément le sud de la France qui est plus critique, mais beaucoup plus proche de nous, par exemple, la Dombe sud, par exemple, est encore aujourd'hui, à cette date-là, en crise. Ça veut dire qu'il y a un arrêté de la préfecture pour limiter les prélèvements sur la ressource en eau. Ça veut dire que ça peut être très proche, bien que la Dombe soit un milieu très humide aussi, hein, par nature des grands étangs, elle subit ses stress. Donc c'est difficile d'anticiper une situation très locale. On sait qu'on va avoir des conséquences importantes, plus de chaleur, je vous ai dit un peu plus d'eau tout à l'heure, chaleur plus eau génère de la vapeur, donc des fois des températures invivables, en tout cas un sentiment de température invivable. Mais est-ce qu'on aura des difficultés liées à la ressource en eau à Bourg-en-Bresse, en tout cas? Oui, mais quand? Je ne sais pas. Et il y aura des régions en France, en tout cas, qui subiront ce problème d'accès à l'eau beaucoup plus tôt que nous.
Oui, donc on pourra aussi s'inspirer de ce qui fait... Ce qui se fait ailleurs. Mais est-ce que vous connaissez déjà des techniques, solutions ou pour manœuvrer? Alors, vous parliez du coup justement de la construction naturelle de la rivière, enfin qu'on reprend de façon naturelle avec le lit élargi. Mais du coup, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont imaginées en France, dans le monde, que vous auriez entendu parler?
Oui, alors nous, pour les travaux qui se déroulent aussi actuellement, et c'est les principes sur lesquels on s'appuie sur tous nos travaux, ça s'appelle les solutions fondées sur la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que finalement, on regarde ce qui se passe dans une rivière naturelle et on essaye de le reproduire. Comment ça se traduit sur le terrain? C'est qu'on essaye surtout de reconnecter la rivière avec ses côtés, donc les grandes zones humides, aux endroits où, bien sûr, il n'y a pas d'enjeu ou moins d'enjeu. On essaye de remettre du bois mort dans les cours d'eau. Pourquoi ce bois mort? C'est que ce bois mort, en fait, crée un habitat pour plein d'espèces. Et puis, la biodiversité se fait par la perturbation. Donc, vous mettez une branche au milieu de l'eau, elle va générer une perturbation du fil d'eau. Et du coup, d'autres espèces vont venir que si on avait une lame d'eau très uniforme. Voilà. Donc ça, ce sont les solutions fondées sur la nature. Après, il y a en ce moment, ça bouge beaucoup quand même dans cette science d'hydrologie. On parle, peut-être que vous avez entendu parler d'hydrologie régénérative. Donc là, c'est plutôt adapté à de l'agriculture, où on essaye de récupérer l'eau. Alors, on ne parle pas de grandes bassines. Hein. Il y a eu ces grandes thématiques, ces grands débats qui sont quasiment des débats nationaux sur les grands réservoirs d'eau. Ici, c'est plutôt à l'échelle d'une petite exploitation où on essaye de retenir l'eau au maximum sur des fossés qui arrivent dans des mares et qui génèrent aussi de la biodiversité, qui ne sont pas forcément utilisés pour l'irrigation, mais qui génèrent ces petits réservoirs d'eau et qui, du coup, hydratent les sols à proximité. Voilà. Okay. Donc il y a ça. Et après, il y a une dernière technique, mais qui pour l'instant demande, mais il y en a plein d'autres, hein, mais qui demande encore des confirmations, ce serait les techniques du castor. En fait, on essaye de reproduire ce que fait le castor sur les cours d'eau. Voilà. Chez nous, je suis pas sûr pour l'instant que ça soit adapté. Alors, ça démarre, quoi. C'est un peu un effet de mode, j'ai l'impression. C'est mon avis très personnel. Mais voilà, à voir ce que ça va donner.
Ok. On arrive tranquillement à la fin. Peut-être un petit mot, une petite image que vous pourrez nous donner sur l'eau dans le futur, sur la rivière. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite description imagée ? Ouf, un peu dur peut-être.
Pour les Burgiens, aller sur la prairie, ce qu'on appelle la prairie de Montagna, en amont de Bouvant, à proximité de Bouvant, où on a fait nos travaux, c'est ça l'image de la rivière du futur 2050.
Ouais.
En tout cas, je l'espère. Nous, on a travaillé aujourd'hui en 2025 pour les 50 prochaines années. Donc, okay. 2050 sera dans ces 50 prochaines années. On espère, parce qu'on travaille avec un milieu naturel, dans un contexte changeant, précaire, volatile, dans une certaine vulnérabilité. On espère que les choix qu'on a faits seront les bons. Voilà, on ne remet pas du tout en cause. On a souvent tendance à entendre dire qu'on remet en cause ce que les anciens ont fait. Non, on s'inscrit dans la même histoire, on s'inscrit dans la continuité. Ce qui a été fait a été bénéfique pour la société française à court terme. Aujourd'hui, on en remarque les conséquences. On en tire aussi des conclusions et on essaye de s'en servir pour mieux construire l'avenir et offrir aux générations suivantes une ville plus agréable, plus adaptée, plus résiliente et plus facile à vivre.
Ça, c'est génial, ça. Ouais. Vous avez un peu anticipé ma question parce que je voulais vous demander en 2100, mais c'est vrai que si vos travaux vont jusqu'à 2075, ça mène quasiment là. C'est bien de penser sur du moyen, quasiment long terme, parce que 50 ans, c'est vrai que c'est rare qu'on penche sur 50 ans, donc c'est ça qui est plutôt bien.
Avec une grosse part d'incertitude quand même.
Quand même, voilà. Et bah, en tout cas, merci Alexandre pour cette interview. Donc on arrive du coup au terme de notre émission. 15 minutes, c'est toujours trop court, hein, on a toujours envie de discuter plus. Mais chers spectateurs, on vous invite le mardi 27 mai à 18h30 à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté. Cette fois-ci, pas sur les ondes, mais en présentiel pour venir nous discuter avec nous. On vous invite à un Little Café. Ça sera sur les émotions face au futur. Donc comment on se sent face au futur, à ce dérèglement climatique, à ces évolutions qui ont lieu maintenant, qui auront lieu, enfin qu'on espère avoir lieu aussi dans le futur. On a invité notamment Nadège Raffou, qui est psychologue et chercheuse en éco-anxiété, excusez-moi, pour venir aussi témoigner lors de ce temps d'échange. C'est gratuit, bien évidemment. D'autres rendez-vous sont proposés dans la programmation Notre Ville, Regard vers le futur, que je vous invite à retrouver sur la page Facebook de la MCC Bourg-en-Bresse. Alexandre, je crois savoir que vous avez aussi quelques actions de prévues, notamment en juin. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ?
Oui, alors le syndicat, on essaye. Alors notre objectif est de faire revenir les gens au bord de l'eau et vivre des émotions. Réadaptez-vous à votre rivière. Votre rivière est une chance. Donc venez vivre à son bord. C'est toujours très agréable d'être au bord de l'eau. Et du coup, pour faire revenir les habitants de Bourg, mais plus largement, hein, venez au bord de la Ressouze. En juin, on ouvre une exposition qui sera en permanence tout le mois de juin à la MCC. À la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, à Bourg-en-Bresse, du coup, sur le champ de foire. Et puis, au premier week-end de juillet, 4, 5, 6 juillet, on va faire la fête sur les bords de l'eau, en partenariat avec la scène nationale et la MJC. Et du coup, on a des spectacles de cirque, un concert le samedi soir sur le champ de foire. Donc voilà, n'hésitez pas, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet, syndicat Ressouze et Affluent. Et puis ensuite, on fait aussi des sorties découvertes sur la biodiversité, etc. Donc n'hésitez pas à venir consulter.
Moi, je vais m'inscrire à certaines des visites, ça a l'air cool.
Merci.
Merci en tout cas beaucoup, Alexandre, pour avoir répondu à notre invitation et pour avoir témoigné à cette émission. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain sur les ondes avec Radio B. À bientôt.
Merci à tous, à bientôt.
À ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi ?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux ?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été ?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit ?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville ?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous ?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ?